Il est tout pile 9h40 sur France Inter. L'instant M, ça passe vite et c'est en vie.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
15 minutes pour convaincre, c'est ce que France 2 proposera finalement demain soir en direct aux 11 candidats à la présidentielle. À défaut du grand débat que la chaîne avait prévu, projet enterré suite aux refus, doutes et critiques de plusieurs invités, projet dont le CSA a fini par se mêler. 15 minutes pour convaincre, c'est ce que l'Instant M propose ce matin au directeur de l'information de France Télévisions, histoire d'y voir un peu plus clair dans cette grande confusion. Bonjour Michel Field.
Bonjour à toutes et à tous.
Voilà, 15 minutes, peut-être même un peu plus, vous allez déborder votre propre temps de parole. La soirée sera pilotée par David Pujadas et Léa Salamé, également diffusée sur France Inter, France Info et TV5 Monde. Avec vos réactions, iketnunk, hashtag Instant M.
L'Instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Bon, Michel Field, on commence par ce qui fait mal. Vous avez été obligé de jeter l'éponge, de renoncer à votre grand débat prévu demain soir avec les 11 candidats. Pour l'Obs, je cite, c'est un camouflet, un aveu d'échec selon Challenge, un couac majeur pour West France, un pchit pour le Figaro, une claque pour le Parisien, qui titrait, le fiasco de l'info. Et vous, vous qualifieriez comment ce qui s'est passé ces derniers jours?
Pendant que mes confrères écrivaient, je travaillais.
Sans blague.
Donc ça m'a évité aussi de les lire. Il y a toujours des périodes un peu de bashing comme ça et puis une phase en chasse une autre. Je suis obligé de rectifier la chose que vous avez dite, et contrairement d'ailleurs à ce que beaucoup de confrères ont écrit, on n'a pas renoncé au débat en trouvant une solution de rattrapage. On a d'emblée mis sur la table, et les 11 représentants des candidats pourraient en témoigner, bien avant le débat à 11 de BFM, les deux modèles, soit un débat à 11, soit cette succession d'entretiens. Je me suis inspiré d'ailleurs de ce que France
Télé... Les deux modèles étaient proposés depuis le mois de janvier.
En janvier, on avait calé la date. Mais depuis début mars, on a travaillé sur ces deux modèles-là.
Je vous l'assure, et vous pourrez trouver
les témoignages qu'il faut. Et il se trouve qu'en effet, à la fois un certain nombre de candidats l'ont préféré, d'autres auraient préféré le grand débat, ça c'est clair, et nous on a trouvé que statutairement, par rapport à la fois à ce que le service public devait rendre comme service aux citoyens et à cause de la date, c'est-à-dire 3 jours avant le scrutin, un format inédit. Le débat, c'est formidable, c'est les punchlines, c'est les petites phrases, c'est les postures,
etc. C'est la confrontation, surtout.
Sauf que jeudi, 3 jours avant le scrutin, c'est pas de ça dont les citoyens ont besoin. Les citoyens, ils ont besoin d'un dernier éclaircissement sur les programmes, de quelque chose d'apaisé, de quelque chose de responsable. On est le service public de l'audiovisuel. On peut pas se permettre le moindre...
Mais vous réécrivez pas un peu l'histoire? Pourquoi est-ce que Jean-Luc Mélenchon a publié cette tribune en parlant d'une assignation à débattre?
Mais parce que Jean-Luc Mélenchon, à un moment donné, et vous le savez très bien, parce que vos journalistes en sont les victimes aussi, la posture anti-média fait partie de l'arsenal de campagne d'un certain nombre de candidats. Jean-Luc Mélenchon, il refuse de venir, je crois, le matin chez vous. Moi, j'ai pas de jugement à porter sur les candidats. Je me suis refusé à toute polémique, sauf quand des journalistes nominalement étaient attaqués par tel ou tel, et c'est mon devoir de les défendre. C'est sûr aussi qu'on paye l'émission politique, on paye le fait que c'est une émission à laquelle tous sont venus. Ça a été l'émission qui a rythmé cette campagne depuis la primaire de droite, la primaire de gauche, etc. Mais où l'indépendance des journalistes, quelquefois, fait un peu mal.
Alors, on paye ça. Qu'est-ce qui vous a fait le plus mal? Le fait que TF1 organise un mois avant vous un débat à 5 ou que BFM cale un débat à 11? Non.
Franchement, rien ne me fait mal. Tout est bon pour le débat citoyen. Le problème, c'est que le service public, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Alors, le débat à 5, on ne l'aurait jamais fait.
Et quand je me suis rapproché de TF1 de le co-organiser.
Quand je me suis rapproché de TF1, c'était
pour le co-organiser.
Pour le co-organiser, c'était à condition qu'il soit élargi. On ne peut pas, quand on est le service.
TF1 vous a refusé cette co-organisation.
Non, mais ça, c'était son droit le plus strict. Et ça m'empêche pas de beaucoup aimer Catherine. Mais oui, mais ça, qui n'essaie rien, qui ne tente rien, n'a rien. Mais de toute façon, le service public n'aurait pas pu de lui-même choisir les candidats. Le TF1 fait ce qu'il veut, mais nous, on a une forme de responsabilité citoyenne qui fait qu'à un moment donné, le jour ou le lendemain où le Conseil constitutionnel publie la liste officielle des candidats, on peut pas dire, nous, on prend que ceux qui vont faire de l'audience. Ça, c'est pas possible. Et c'est pour ça que le format de demain, qui est totalement inédit, parce qu'on n'a jamais vu 11 candidats parler, faire l'ultime précision sur leur programme, sur leur point de programme.
À la queue leu leu les uns après les autres.
Les uns après les autres, mais avec un rassemblement à la fin d'une conclusion au pupitre.
Parce qu'on est bien d'accord que les 11 en question, on les entend jour et nuit partout en ce moment, sur toutes les antennes et tout.
Oui, mais on les entend pas dans un moment qui va permettre aux citoyens, s'il prend 2 heures, et vous savez... On respecte tellement nos téléspectateurs citoyens que on fait démarrer l'émission à 20h pétante parce que trois jours après, à 20h, on aura le résultat des deux finalistes. Peut-être. D'ailleurs, on y verra. Dans le meilleur des cas.
Bon, alors attendez.
De 20h à 23h30, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même une émission longue de 3 heures qui va permettre à tout le monde de se faire une dernière idée. Je vous rappelle qu'il y a encore 35% d'indécis. Et moi, quand j'ai été le premier à lancer cette date, car n'oublions pas, j'ai lu, ou on m'a rapporté plus exactement, improvisation, n'importe quoi. Mais fin janvier, nous proposons cette date. Et pourquoi je le fais? Je le fais avec une analyse politique, pas médiatique, politique. Je me dis, cette campagne, la cristallisation va être très tardive. Pourquoi? Pas parce que je suis devin, parce que j'avais vu comment ça s'était passé à la primaire de droite. Je voyais comment ça allait se passer à la primaire de gauche. Sont sortis du chapeau les candidats inattendus. Ça veut dire qu'on était dans une campagne, et ça, la suite l'a démontré, totalement erratique, totalement singulière, et l'idée d'être les derniers à pouvoir en quelque sorte faire le cliché final.
Alors,
de cette
campagne.
Alors, le
cliché final, est-ce qu'ils y seront tous? Est-ce qu'ils seront tous sur la photo? Vous avez des garanties fermes et définitives de tous?
On a les garanties. Écoutez, quand on procède à un tirage au sort sur l'ordre d'apparition à l'antenne...
Et que Jean-Luc Mélenchon est providentiellement tiré premier pour les interviews...
Ah ça, je
et premier pour les couches... Non, ça, bien sûr, Jean-Luc, c'est
écoutez,
pas du tout ce que
on
je...
On peut avoir de temps en temps de la chance dans ce métier.
C'est ça qu'il a déterminé?
Non, pas du tout, parce que j'avais demandé...
Donc il sera premier pour les interviews, premier pour les conclusions.
J'avais demandé à tous les candidats, évidemment, enfin, on n'était pas dans une cour de récré, les enjeux sont graves. J'avais dit, il est évident que je veux votre accord de principe avant de tirer au sort. Ce serait trop facile, si le tirage au sort n'est pas favorable, de dire, ah ben
donc
non,
vous
ça
aviez m'intéresse. L'accord de principe?
On a eu cet accord de principe.
Voilà. Alors, hier, après... un journaliste du Monde précisait quand même que dans l'équipe de campagne de Mélenchon, on disait que non.
Oui,
toujours
oui, son directeur de campagne réclamait des garanties. D'ailleurs, il les réclamait aussi à France Inter. Vous savez, le CSA nous a fait part à un moment de sa préoccupation sur un article du code électoral qui fait que si très proche de la fin de la campagne officielle, un élément nouveau de polémique surgit, il faut que tout candidat ait la possibilité d'un droit de réponse.
Un droit contradictoire.
Voilà. France Inter et
alors,
et
qu'est-ce que c'est qu'un élément nouveau?
Bah, c'est un moment
c'est
donné.
C'est une attaque, c'est une diffamation, c'est quoi?
Voilà, c'est une attaque, c'est une diffamation, c'est sortir de son chapeau un thème personnel, une mise en cause personnelle qui n'a jamais été, prise dans le débat de la campagne. À ce moment-là.
Donc ça n'est pas vous êtes un pourri. C'est je viens de découvrir et personne ne l'a jamais dit que vous avez étranglé votre chien.
Oui, voilà. C'est ça. D'accord. Mais là, il faut de tout. Alors. Dans notre dispositif de demain soir, il y aura la possibilité d'un droit de réponse in situ, puisque dans la conclusion un peu plus longue, 2 minutes 30, il y a droit de réponse si le candidat le veut. Et si jamais il y avait ce type d'incident-là, les antennes de France Inter et de France Télévisions donneraient à un candidat injustement mis en cause la possibilité de répondre. Voilà, c'est une sorte de filet de sécurité. Pourquoi ? On veut... Alors, à la fois rassurer les candidats, rassurer le CSA, mais aussi rassurer les téléspectateurs, on ne va pas aller vers la politique spectacle demain. C'est une forme sérieuse, c'est une forme cadrée, c'est une forme statutaire.
Alors,
le service public ne peut pas plaisanter à 3 jours avant le scrutin.
Face à David Pujadas et Aléa Salamé, est-ce que la grille thématique des questions abordées, est-ce qu'elle a été élaborée en concertation avec les équipes des candidats, comme c'est le cas pour les débats?
Oui, alors on a convenu, on s'est mis d'accord sur le fait qu'il y aurait... Alors après, les questions vont être évidemment spécifiques aux candidats, parce que les programmes ne sont pas les mêmes par définition. Mais il y aura
un tronc commun
sur, en gros, le pouvoir d'achat, le chômage, etc. Une ou deux questions de précision du programme. La boussole, c'est le programme. Une question ou deux portant sur l'international, la France, l'Europe. Et puis, on offre aux candidats ce qu'on a appelé une carte blanche, c'est-à-dire c'est le thème, la thématique de leur choix. Ce qu'ils pensent avoir été de leur programme peut-être sous-estimé ou mal...
C'est la figure libre du patinage artistique.
Et là, mais en même temps, le travail journalistique de Léa et de David restera celui qu'il est toujours, c'est-à-dire liberté de questionnement, etc. Cela dit, l'axe, c'est c'est le programme, c'est éclairer les citoyens.
Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, on a sûrement payé l'émission politique. David Pujadas, Léa Salamé sont vos deux intervieweurs de l'émission politique, justement, que Jean-Luc Mélenchon, lorsqu'il a commencé à se cabrer, a qualifié d'odieuse. Je le cite et je cite toujours qu'il refuse d'être réduit de façon grossière en chair à buzz et de permettre à une équipe trop bien connue pour sa fascination pour le seul spectacle de dominer la conclusion de la campagne. Évidemment...
Il y a des candidats qui sont un peu maso parce qu'ils disent ça d'une émission qu'ils ont faite deux fois dans la saison. Donc si c'était aussi abominable
que
ça...
Alors, il se trouve que c'était juste après le passage de la romancière Christine Angot, invitée surprise face à François Fillon.
Christine Angot, vous avez quelque chose à ajouter ?
Non, c'est bon là, ça va. Non, vraiment, vous n'êtes pas des gens avec qui on peut pas... Vous voyez, c'est déjà tellement difficile de parler, tellement difficile. Vous savez, c'est pour ça que ça sert la littérature, parce qu'on ne peut pas parler avec des gens comme vous.
Ah, vous avez pu
Alors,
parler ?
Heureusement
vous avez pu parler.
Non, mais ça s'appelle pas parler, ça.
Incontestablement un moment très fort de télé, Michel Fil, directeur de l'information de France Télévisions, qui m'ont invité ce matin. Mais politiquement, à quoi ça sert de faire ça ?
Alors, c'est une question, il y a eu des polémiques sur les invités surprises ou sur d'autres moments de l'émission politique. Je voudrais dire que c'est pas la recherche du buzz comme on a pu nous le reprocher. C'est la contradiction dans laquelle on est de proposer... On est la seule chaîne de télé à maintenir une émission politique régulière en prime time. Il y a eu 13 émissions politiques dans la saison. Mais à un moment donné...
Elle a joué
une
son
politique,
rôle, cette émission,
une politique
totalement
qui est en
son
crise.
Rôle, mais en effet, elle n'a pas de concurrent. Elle est seule.
Oui, que les autres s'y mettent. Hein. La contradiction qui est la nôtre, c'est de maintenir une émission politique dans un moment où la politique est discréditée, où les journalistes médias sont mis en cause. Donc, il y a mon obsession, c'est à un moment donné de faire venir, même brutalement, le réel, c'est-à-dire les invisibles, ceux qu'on n'entend pas, ceux qui ont une position peut-être non conforme. Et dans les invités surprises, il y avait toujours des sortes de personnalités très singulières, mais qui étaient pensées en fonction évidemment de l'invité politique et d'un éclairage supplémentaire. Vous savez, on réduit l'émission politique, et vous le faites vous-même, à l'invité surprise.
Non.
C'est 2h30 d'émission dans lesquelles, je dis, il y a une sorte d'interrogatoire à 360 degrés. C'est l'expert économique, c'est le contradicteur politique, c'est les journalistes, c'est les Français, c'est le politique en immersion.
Mais je reviens sur le mot, Michel Fil, que vous venez vous-même d'utiliser, le mot brutalement. Ce qu'on entend très bien dans l'intervention de Christine Angot, c'est que justement, il y a un moment où elle n'a plus de mots, où il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus possibilité de parler. Que c'est une émotion brute, pour reprendre votre propre mot, qui est poussée à son paroxysme. Est-ce que c'est le rôle d'une émission politique de pousser l'émotion brute à son paroxysme ? Est-ce que c'est le rôle du service public de pousser l'émotion brute à son paroxysme ?
Je suis absolument d'accord pour qu'on pose la question et que le débat contradictoire s'instaure. Des gens très bien intentionnés pensent qu'on est borderline en faisant ça. Moi, je ne le crois pas parce que l'émission politique... Ça a été un miroir de cette campagne. Cette campagne, elle a été violente, comme ça. Et à un moment donné, si on avait fait une émission politique aseptisée, dans l'entre-soi, bien polissée, on serait passé à côté de la réalité de cette campagne.
C'est-à-dire, le contraire de brutal, c'est l'entre-soi et polissé ? Quand on fait un travail de journaliste ?
Non, pas forcément, mais d'ailleurs, encore une fois, dans les 2h30 d'émission, il n'y a pas que ça. Moment donné, il peut y avoir une éruption, en effet, de la violence contenue dans cette campagne, de toutes les affaires qui l'ont polluée et déterminée. Et moi, je pense que, au total, l'émission politique aura été... Je me place dans 20 ans, un sociologue qui regarderait, qui voudrait analyser la campagne électorale, il aurait un miroir extrêmement juste de ce qu'a été cette campagne avec les numéros de l'émission politique.
Justement, projetons-nous dans un peu moins de 20 ans, Michel Fil, l'émission politique, elle est-elle supposée survivre à l'année électorale ? Est-ce qu'elle est programmée à la rentrée ?
Oui, elle sera programmée. Alors peut-être, on est en train de travailler sur les grilles de rentrée, peut-être avec une périodicité moindre, parce que là, on a quand même beaucoup donné. Hein. On a eu 13 émissions politiques en prime time. C'est absolument énorme sur une saison. Vous savez, France
Donc
Télévisions...
Donc une périodicité moindre, mais toujours l'émission politique.
Mais toujours l'émission
toujours
politique.
Toujours Pujadas et Salamé ?
Écoutez, ça on verra, mais on ne change pas une équipe qui gagne, comme
alors,
dirait l'autre.
La soirée électorale de dimanche soir, parce que vous avez annoncé un grand, grand barnum. Elle s'annonce néanmoins sous haute tension. Les sondeurs commencent déjà à prendre leurs précautions et à mettre en garde, sachant que les bureaux de vote vont fermer désormais à partir de 19h, c'est très tardif, et que 4 candidats font la course en tête dans un mouchoir de poche. Est-ce que vous êtes prêt à décaler le fameux rendez-vous médiatique de 20h, c'est-à-dire l'annonce des 2 finalistes, si vous ne les avez pas, ou si vous ne les avez pas dans une absolue certitude ? d'inquiétude.
Ah mais c'est clair qu'on va, on va jouer une carte de grande prudence. Vous savez, on a un dispositif qui va mêler, c'est une grande première à la télé, à la fois le studio réel, la réalité augmentée et le studio virtuel. Et on va faire apparaître, on a voilà, normalement les deux finalistes. Mais si on n'est pas sûr de nous...
Comment ça, vous allez faire apparaître les deux finalistes?
Ah bah ça, vous le verrez. C'est on peut avoir des surprises. Il va y avoir...
Vont s'afficher à l'écran.
Leurs avatars vont s'afficher à l'écran. Si on n'est pas sûr de notre coup, il n'y en aura pas deux, il y en aura trois ou il y en aura quatre à 20h.
Vous avez déjà prévu ça?
Ah ben, on travaille
d'élargir
là-dessus.
D'élargir l'écran.
Mais évidemment.
Et donc de proposer
vous savez, on va
quoi
travailler
aux téléspectateurs
sur, on va travailler
de France
sur des fourchettes. Si les fourchettes se croisent et sont trop proches, c'est-à-dire qu'elles entament la marge d'erreur du travail de notre partenaire Ipsos, à ce moment-là, on jouera là. Il ne s'agit pas... Enfin, on ne va pas jouer à la course, à l'escarpolette comme ça, c'est pas ça. Si on est dans le doute, d'ailleurs, j'allais dire d'un point de vue télévisuel, tant mieux parce que ça fait un teasing et un suspense formidable. Mais si
pendant
on
ce
est
temps-là,
pas...
BFM peut en dégainer deux, CNews peut en dégainer deux. Vous êtes dans un contexte de concurrence quand même télévisuelle.
Oui, mais enfin, si vous voulez, c'est pas des décisions qui se prennent en regardant ce que font les confrères. C'est des décisions qu'on prend en responsabilité pour, encore une fois, on a un devoir de service public et je pense que, comme on va faire la soirée avec vous, vous partagez cette option-là où on n'est pas à un quart d'heure près et en tout cas, on n'est pas à un quart d'heure près s'il s'agit de ne pas se planter. Mm-hmm. Maintenant, la révélation, c'est un moment. Nous, ça va être 24 heures chrono. On prend l'antenne à 18h30. On la rend à télématin à 6h30. Il y a une nuit présidentielle qui va suivre la grande soirée où il y aura toutes les incarnations du service public de Laousse, Pujadas, Lacaro. Julien Buget va prendre à minuit et demi une nuit présidentielle sur France Info, en animant des débats jusqu'à 3h du matin. Puis après, il y aura des docs, il y aura des documents historiques sur l'histoire de la présidentielle. Bref, et puis après, le lundi, on va se mettre en spécial absolument toute la journée. Donc c'est en gros 24 heures chrono sur la présidentielle. C'est aussi le résultat d'un investissement sur la vie politique que France 2 est la seule chaîne à avoir fait. On a consacré plus de 170 heures d'antenne à la politique depuis
septembre.
Alors,
justement,
sur France 2, France 3 et
France
Info.
Un mot quand même, justement, de votre rôle de directeur de l'information qui englobe évidemment toutes les éditions dont vous venez de parler. Qu'est-ce qui a changé dans vos relations avec la rédaction depuis la motion de défiance qui a été votée, quand même massivement, il y a pile un an. C'était en avril l'année dernière.
Merci de me souhaiter bon anniversaire.
Oui.
Bah, les rapports se sont tissés, retissés. Moi, j'ai entendu, en effet, on en avait parlé ensemble l'année dernière. J'ai entendu le coup de...
Ah bah non, vous n'aviez pas voulu venir.
Ah non, je n'étais pas venu, c'est vrai.
C'est ça.
J'avais entendu ce coup de semonce-là. Bon, franchement, depuis... Après, il y a un dialogue qui, quelquefois, c'est une rédaction, mais comme celle d'Inter, c'est une rédaction indépendante, c'est une rédaction irruptive. Ils me demandent des comptes et c'est bien normal que je leur en donne. Maintenant, c'est vrai qu'on a des éditions... Jamais le journal de France 2 a été aussi, l'écart a été aussi réduit avec celui de TF1. On a, dans l'intervalle, lancé une chaîne info dont tout le monde s'accorde à dire qu'elle a vraiment marqué de sa nouveauté, de son originalité, le PAF. On a fait cette campagne où vraiment les grands rendez-vous se sont passés chez nous.
Est-ce que vous allez revenir dans l'instant même, Michel Field? J'ai plein de questions à vous poser sur le JT.
Mais si vous voulez, demain, je suis libre. Qu'est-ce que vous faites?
Je pense que je vous interview demain matin.
D'accord.
Chiche, à demain matin. Salut Michel Field. En attendant, c'est demain à 20h. Hein. Donc le journal est avancé à 19h15, c'est ça Michel?
19h45.
19h45.
Et à 20h pétante, c'est-à-dire comme 3 jours après, il y aura la révélation, on démarrera sur une durée qui ira jusqu'à 23h15.
Direct également sur France Inter, France Info et TV5. Bonjour Ali Rebéi.
Bonjour Sonate Villa.
Au programme de Grand Bien Vous Fasse.
On se demande s'il est vraiment possible de pénétrer dans le crâne des consommateurs pour les pousser à acheter une canette de soda ou un paquet de couches-culottes. On s'intéresse ce matin au neuromarketing. Toutes vos questions au 01 45 24 7000.
Et dans le crâne des électeurs, non, vous allez poser la question.